Bonjour.
Bonjour.
Comment allez-vous?
Maudeline Pierre vit en colocation dans un petit appartement de Montréal-Nord avec sa sœur et ses deux filles. L'une née au Brésil et l'autre est venue au monde aux États-Unis. En 2016, elle quitte le Brésil pour les USA. Et en 2017, alors que Washington déporte son mari vers Haïti, elle, ses deux filles et sa sœur prennent la direction du Canada. Ici, elles obtiennent un permis de travail et elles trouvent un emploi au salaire minimum, $12 de l'heure. Vu son statut de demanderesse d'asile, elle n'est pas admissible à faire garder ses enfants dans une garderie subventionnée par l'État québécois. De juin à décembre 2018, Mme Pierre payait $800 par mois à un service de garde privé afin de pouvoir travailler.
Les filles, les billes pour 1,180, 160.
OK.
Et la fois et demi.
Donc, vous avez payé $800 garderie ou pas arrêter un an?
Non, vous arrêtez un an.
Après avoir payé la garderie et les autres factures d'électricité, entre autres, il ne me reste rien du tout. Il y a des jours où je ne mange pas afin de pouvoir nourrir les enfants minimalement, dit-elle.
À des fois, vous préférez bien manger ou être comme ça?
Ne pouvant plus défrayer les coûts pour la garderie privée, Mme Pierre décide de garder les enfants à la maison depuis janvier 2019.
Comme si mal arrangé avec un seul, comme si c'est bien même. Si fait trois jours, moi-même, fait trois jours.
Je ne reçois pas d'aide sociale pour les enfants. Je dois travailler pour m'en occuper. Moi et ma sœur, on se relaie pour le boulot. On travaille chacune 3 jours par semaine afin de garder les enfants à tour de rôle. Liliane Jean-Pierre est arrivée, elle, des États-Unis, enceinte en avril 2018. Elle accouche d'une Canadienne en mai. Charline Toussaint, sa colocataire dans le quartier Saint-Michel, est arrivée enceinte également en mars 2018 et accouche d'une fillette en mai. Leurs filles, canadiennes par la loi du sol, ne sont pas admissibles à une garderie subventionnée. Elles ont toutes les deux des permis de travail et veulent y aller, mais pas moyen de faire garder leurs enfants. Elles vivent de l'aide sociale.
Et même seulement tout pareil, depuis le fini, là, nous sommes obligés d'être comme ça.
Avec ça, nous devons payer la maison, acheter du lait, des couches, de la nourriture, etc. Il y a des fins de mois où nous vivons des jours sans pain. On ne peut rien faire.
Et caille, et courant, pour tout le monde manger.
Non, pas
chercher.
On n'arrive pas à faire garder nos enfants pour pouvoir aller travailler. C'est la même situation pour moi, dit Charline Toussaint.
Comment on fait? C'est la même situation pour vous?
Oui, même situation.
Le dernier rapport que j'ai fait, puis on parle, il y a 253 enfants de 0 à 5 ans.
Qui n'ont pas accès à la garderie.
Ben, c'est son 0,5 ans, ils n'ont pas accès.
Claudia Martin est agente de liaison volet immigration chez l'organisme Entre parents de Montréal-Nord. Depuis la vague de demandeurs d'asile en 2017, elle recense près de 400 familles avec enfants dans le quartier.
Et c'est beaucoup des familles en ce moment de 4, 5, 6 enfants donc, qu'on reçoit.
Ah ouais?
Oui, jusqu'à 7 même enfants. C'est beaucoup de grandes familles. Alors, calculez comme vous voulez, mais une aide gouvernementale ou une famille, j'ai un exemple, de deux parents avec 6 enfants reçoivent $1,200 par mois. Je ne sais pas comment ils font pour se nourrir.
De la part de Québec?
De la part... Non, c'est fédéral, en fait. Non, ouais. C'est le fédéral hein, qui donne l'argent, mais passe par Québec. Donc, c'est difficile et justement, là, bon, ils attendent leur permis de travail parce qu'ils veulent travailler et ils viennent d'apprendre qu'ils n'auront pas accès à une garderie subventionnée. Donc, même si un des deux parents travaille, imaginez, au salaire minimum à 40 heures semaine, parce que la plupart du temps, c'est ça qu'ils trouvent comme emploi, ils n'arriveront pas non plus. Ils vont faire partie des travailleurs pauvres. Donc, juste même pour se nourrir, ça devient un problème. C'est ce qui fait aussi que c'est important la socialisation, d'autant plus pour les enfants, pour pouvoir sortir de la maison, avoir que les parents soient libérés aussi, un temps pour faire des choses de leur côté, puis qu'ils puissent être préparés éventuellement pour l'école, là, surtout les 3 ans, 4 ans. Ouais.
Ben, le ministère, lui, applique le règlement sur la contribution réduite et qui établit là l'admissibilité à cette contribution-là. Et les demandeurs d'asile n'ont jamais été admissibles au paiement de cette contribution de base-là. On n'a pas changé notre politique là, à ce sujet-là.
Alexandre Noël est responsable des communications au ministère québécois de la Famille. Il évoque une mauvaise interprétation de la loi qui fait en sorte qu'avant avril 2018, les enfants des demandeurs d'asile étaient admissibles aux garderies subventionnées, alors qu'ils ne le devraient pas. Et donc, en avril 2018, le ministère envoie une lettre à l'ensemble du réseau.
Pour expliquer justement que les demandeurs d'asile, y compris ceux titulaires d'un permis de travail, ne sont pas admissibles au paiement de la contribution de base. Ceci dit, en prenant en considération le fait que de l'information erronée qui a circulé, bien, il y a une tolérance administrative qui a été décidée. Donc, les personnes qui avaient une entente avec un service de garde subventionné avant le 10 avril 2018 peuvent conserver leur place. Donc, c'est ce qui permet aux enfants là, de demeurer dans les milieux de garde.
Il y a toute une incohérence là. Des femmes obtiennent leur permis de travail, veulent travailler, veulent poursuivre leur cours de francisation. Deux éléments qui participent d'une bonne intégration. Et pour ce faire, nous savons que les enfants de ces femmes doivent avoir accès aux services de garde subventionnés.
Wilner Caillot est pasteur d'une église baptiste à Montréal. Il mène parallèlement un mouvement appelé « Debout pour la dignité ». En octobre 2018, le pasteur adresse une lettre à Mathieu Lacombe, ministre de la Famille, dont il est toujours sans nouvelles. Dans cette missive, Wilner Caillot interpelle le politicien face à la situation de ces petits Canadiens québécois.
Donc encore des petits-enfants québécois qui n'auraient supposément pas les bons parents, car demandeurs d'asile. Je comprends quand la CAQ disait « en prendre moins peut-être hein. ». Mais en prendre soin, sûrement, mais ce n'est pas la façon d'en prendre soin, là.
Cette question est régulièrement soulevée par la communauté haïtienne, notamment la Coalition haïtienne pour les migrants. Lundi 14 janvier 2019, c'est Ninette Piou, une des porte-parole de la Coalition, qui évoque la problématique avec le ministre fédéral des Enfants, Jean-Yves Duclos. Ce dernier rencontrait une vingtaine d'organismes de la communauté haïtienne au BCHM, dirigé par Ruth Pierre-Paul.
Et aujourd'hui, j'ai entendu des choses importantes. Puis, dans le respect du partage des compétences, je vais quand même vouloir parler de cet enjeu avec mes collègues du gouvernement du Québec pour voir comment on a un nouveau gouvernement à Québec, là. Est-ce qu'ils souhaitent faire les choses différemment?
Est-ce que, dans un contexte comme ça, est-ce que vous songez à augmenter un petit peu votre enveloppe pour que Québec s'occupe de ces enfants-là?
Bien, la réponse est oui. D'ailleurs, on a déjà commencé à augmenter l'enveloppe. Il y a à peu près un an de ça, j'ai signé avec le gouvernement du Québec une entente pour financer les services de garde éducatifs d'à peu près 85 millions de dollars par année pour les trois prochaines années. Il va y en avoir d'autres par la suite. Et le gouvernement canadien envoie à peu près 500 millions de dollars par année au gouvernement du Québec pour faciliter l'intégration des nouveaux arrivants. Donc, puis ça, cette enveloppe-là a été bonifiée encore cette année. Donc, il y a des montants additionnels qui sont envoyés. Puis bon, on fait confiance au gouvernement du Québec pour prendre les meilleures décisions.
Je vous demande d'être le porte-voix de ce groupe que vous appelez au Conseil des ministres. Donc, je compte sur vous. J'ai senti votre sensibilité à la cause. Donc, nous comptons sur vous, monsieur le ministre.
Vous avez beaucoup de porte-voix.